chak boing boing boom chak ping boing boing boom chak 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 boing boing boom chak chong boing boom chak chak ping chak boing boing boom chak chong boing boom chak chak.
Quatrième partie, le long ruban de musique. Il y a des années comme ça qui sont plus marquantes que d'autres. C'est le cas de l'année 77. On pense bien sûr à l'explosion du punk, aux Sex Pistols, à la provoque bien décidée à en finir avec le rock à papa. Mais cette agitation-là a masqué bien d'autres disques tout aussi fondateurs pour les décennies à venir. C'est en effet en cette année 77, bénie, que paraissent Trans-Europe Express de Kraftwerk, Flashlight de George Clinton et I Remember Yesterday de Donna Summer. Trois montagnes électroniques à leur façon. Nous avons déjà parlé de Kraftwerk, qui a mis au point la pop synthétique de la fin du XXe siècle. Nous parlerons de la troupe funk de Clinton demain. Elle est cruciale pour la naissance de la techno de Détroit. C'est le disco futuriste de Donna Summer qui nous intéresse aujourd'hui. En 1977, Donna Summer a déjà percé avec un tube hors norme, long de presque 17 minutes follement sensuel, Love to Love You Baby, sorti 2 ans plus tôt. La chanson est produite par un duo anglo-italien basé à Munich, l'auteur Peter Bellot et le compositeur Giorgio Moroder. Donna Summer les a rencontrés lors d'une audition, pendant ses années passées en Allemagne à jouer dans la comédie musicale Air et à courir le cachet comme choriste. Le trio se retrouve pour I Remember Yesterday, un concept album qui raconte l'histoire de la musique façon disco, traverse les décennies pour arriver au futur, l'après 77. C'est le morceau I Feel Love, le dernier du disque, qui doit emmener la chanteuse vers un ailleurs qui n'existe pas encore. À une autre époque, cet avenir clinquant aurait été symbolisé par le térémine ou les sons d'un oscillateur. À la fin des années 70, il est forcément propulsé par un synthétiseur et une batterie électronique, en l'occurrence le syndrome, la première du genre qui modifie en direct les sons d'une vraie batterie. Avec cette machine, Moroder taille pour Donna Summer une partition venue de l'espace, qui semble vouloir continuer sans fin à se dérouler, pendant que la chanteuse psalmodie « I feel love, I feel love, I feel love ». Les pistes de danse explosent littéralement. Le disco n'est déjà plus du disco, alors qu'il atteint au même moment son pic commercial avec la sortie du film Saturday Night Fever. Thank you. I Feel Love, signé par le redoutable trio formé par Donna Summer, Giorgio Moroder et Peter Belotte, révèle aussi le rôle indirect confié au disco à la fin de la décennie 70. Musique de danse, musique légère, il est devenu politique de fait, après une violente descente de police survenue fin juin 69 au Stonewall, un club de New York très fréquenté par les gays et lesbiennes. Réagissant comme un organisme vivant, le disco est alors devenu de plus en plus sensuel, un rituel de désir hors la loi pour une communauté marginalisée. Dans I Feel Love, Giorgio Moroder et Donna Summer poussent encore plus loin cette mutation en faisant du disco la version sexuée des expérimentations électroniques de l'époque et de fait, la première musique de danse entièrement électronique. À la fin de la décennie 70, l'échappatoire festif d'un microcosme s'est aussi retrouvé propulsé en divertissement phénomène au son des Bee Gees et de Gloria Gaynor. Le disco est partout, les mauvais disques pleuvent, ce qui donnera une visibilité malvenue à un mouvement d'opposants ultra-conservateurs, racistes et homophobes, disco sucks. Musicalement, cette musique était malgré tout au bout de quelque chose. Les orchestres grossissaient, les chanteuses s'époumonnaient, mais la musique ronronnait en battant du pied sans réfléchir. Il fallait secouer tout ça, et c'est ce qu'amorce le I Feel Love de Donna Summer, un recommencement porté par une nouvelle envie, ne plus jamais laisser la musique s'interrompre. Donna Summer et Giorgio Moroder ne sont pas les seuls à utiliser le disco pour l'emporter ailleurs. À New York, une bande de musiciens et producteurs se courent après à coups de nouvelles idées. Le jeune ingénieur du son Tom Moulton, auteur du mix spécial club de cette chanson de Tom Downing, a le premier l'idée d'enchaîner les chansons d'une face entière d'un disque vinyle, en l'occurrence la première face de l'album Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor, sorti en 75. Un cadeau de 19 minutes, spécialement pensé pour ménager une pause au DJ, jusque-là coincé toute la soirée dans leur cabine à enchaîner des morceaux trop courts. Le même Tom Moulton inventera un peu plus tard, et par hasard, parce qu'il n'avait plus de disque vinyle vierge en format 45 tours, le format 12 pouces, soit le son d'une seule chanson gravée sur une face de 33 tours. Plus qu'un gadget, c'est une révolution de velours. Tout d'un coup, les sillons larges et profonds donnent à la musique un son bien plus vaste et plus puissant, et la fête ne s'en relèvera plus. Paradise Garage et au Loft, deux clubs où se retrouvent les danseurs les plus exigeants du moment à New York, on entend aussi parfois les disques à peine gravés d'Arthur Russell. Russell est un personnage à part dans cette galerie d'ego, un timide boulimique de musique venu du violoncelle et de l'avant-garde, fasciné par les musiques sérielles de Terry Riley. S'il se met peu à peu au disco, c'est à force de s'ennuyer chez lui tout le week-end, alors que son compagnon se perd dans la nuit new-yorkaise. Mais Arthur Russell le fait à fond et à sa façon, en construisant des hymnes qui connectent le disco à la scène no-wave, qui fait aussi battre la nuit de New York en ce début des années 80, avec notamment les essentiels ESG. Les chansons d'Arthur Russell parviennent à être légères et complexes, jamais réellement achevées, et pourtant riches de mille envies qui ne demandent qu'à être explorées par les disc jockeys selon leur envie du soir. C'est ce qu'est notamment Go Bang, un tube de l'underground new-yorkais de 81, enregistré par le français exilé François Kevorkian, autre figure importante de ces années où le disco s'est transformé pour devenir peu à peu une autre musique. We'll be right back. Avec les morceaux bizarres d'Arthur Russell, les succès de Donna Summer et les mix de Larry Levan, le DJ du Paradise Garage, le disco s'offre à autre chose. Il se nourrit toujours de soul et de gospel, mais il abandonne la grandiloquence orchestrale pour un minimalisme de plus en plus répétitif, qui s'étend et s'étend toute la nuit dans les mains des DJ. Quelque chose qui paraît évident en 2015, mais qui ne l'était pas encore il y a 35 ans. Pour cette musique, le début des années 80 sera une période trouble et encore mal connue. Une économie de cassettes et de vinyles tirées en quelques exemplaires qui rendent l'établissement d'une chronologie précise quasi impossible. Mais c'est dans cette brume qu'apparaît un DJ nommé Francis Warren Nichols, alias Frankie Knuckles. À ses débuts, Knuckles n'est qu'un bon DJ parmi d'autres très bons DJ à New York. Il est très accroché au disco, auquel il ajoute un peu de soul moderne venu de Philadelphie et quelques raretés New Wave. C'est en arrivant à Chicago, où il est embauché dans un club de seconde catégorie, le Warehouse, qu'il passe à autre chose. Frankie Knuckles cherche à pousser les danseurs à quitter le déhanchement du disco pour un abandon plus total. Mais beaucoup de vieux disques, ceux d'avant l'adoption du format 12 pouces, sonnent bien trop plats et lointains pour cela. Il leur faut un coup de pouce, et ce sera une boîte à rythme qui fera l'affaire. Une machine basique, achetée en 83, l'une des premières construites par la firme japonaise Roland, la TR-808. Elle est loin d'être la plus performante, mais c'est une machine relativement peu chère et surtout facile à utiliser. Frankie Knuckles s'en sert un temps pour muscler ses mix, à côté d'un magnétophone à bande depuis lequel il envoie des sons préparés à l'avance ou carrément ses propres remixes des chansons du moment qui dépassent le seul disco. Et il n'est pas le seul. Jesse Saunders branche aussi une boîte à rythme sur ses mix dès 83, tandis que Marshall Jefferson explore déjà l'avant-garde de ce qu'on appellera la house music, parce qu'elle est née au Club Warehouse de Chicago. La foule des danseurs est vite attirée par le vent de nouveautés que font souffler les mix de Frankie Knuckles et Jesse Saunders. Une nouvelle et lente transformation qui achève de faire passer la musique électronique des années disco à un après qui s'avérera bien moins éphémère. Nous sommes au milieu des années 80, la grande famille de la house music est née. Elle va se ramifier jusqu'à aujourd'hui, notamment grâce à l'apparition de la norme MIDI, mise au point par les grandes entreprises du son à partir de 83. Le MIDI permet de connecter facilement les machines musicales de plus en plus nombreuses et diverses. Désormais, les claviers, les boîtes à rythme et bientôt les ordinateurs du monde entier parlent la même langue. Now this is how it started. My dreams are broken hearted. And I want you, baby. We'll never be the same. Cause you played those silly games. And yet I want you.
girl. They say we were an item. My thoughts, I try and hide them. Did I need you? Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do it. And I love you. Love can't turn around.
Début des années 80, au moment même où à Chicago, Frankie Knuckles défend une version très romantique et disons-le même carrément guimauve de cette nouvelle musique électronique, le producteur new-yorkais Patrick Collet la projette dans tout autre chose. Si le public de Knuckles est divers, Collet prolonge directement les années les plus revendicatrices et libertaires du disco dans les clubs gays. Passé très tôt au synthétiseur, il enregistre alors une série de morceaux où règne le mouvement futuriste, la puissance et la fête explosive. C'est la High Energy, une housse survitaminée, taillée pour épuiser les corps sur les pistes de danse où l'on se regarde dans le New York des années 80, alors que le sida commence à faire des ravages dans la communauté gay. Il emportera Patrick Collet en 82, comme il emportera Arthur Russell 10 ans plus tard et tant d'autres musiciens de l'époque. house music prend vite la place du disco vieillissant dans les boîtes de nuit américaines et européennes. De là, elle va aussi se diffuser dans d'autres mondes musicaux et notamment dans la famille très dispersée de la synth-pop. Une musique qui avance toujours à partir des codes du rock, tout en remplaçant les guitares par des claviers et la batterie par une boîte à rythme. Dans cette famille-là, les mancuniens de New Order reviennent de l'enfer. Sous le nom de Joy Division, ils ont sublimé la pop noire de la fin des années 70, avant que leur chanteur Ian Curtis ne se suicide. New Order est le groupe des survivants, plus une nouvelle venue, un groupe qui encaisse, qui se reprend le tournant d'un album, Movement. Puis New Order, comme tant d'autres groupes de l'époque, va chercher l'inspiration dans le New York post-punk de 82. Ils absorbent le rock avant-gardiste et le hip-hop le plus électronique. Et sur la radio Kiss FM, ils écoutent les remixes de Shep Pettibone, l'un des innovateurs du moment, et le disco glacial à l'italienne propulsé par Moroder. Retour à Manchester, les membres de New Order apprennent à programmer une boîte à rythme et doublent la basse de Peter Hook avec un synthétiseur Moog. Les Anglais s'inspirent aussi sans se cacher du disco électronique de You Make Me Feel, un tube de 78 chanté par Sylvester, star bien trop éphémère produite par Patrick Collet. Blue Monday, le morceau qui sort de ses nouvelles expérimentations en 82, transporte New Order très loin de Joy Division. Il définira la suite de la carrière du groupe, passeur crucial des sons house vers l'Europe.
Blue Monday. Day était construit d'après plusieurs disques dance de ma collection personnelle. Je me disais, j'aime cette partie et cette partie. On n'a pas fait de sample, mais on s'est dit, faisons un truc comme ceci ou comme cela, comme ce segment-là. Les idées venaient directement de l'écoute de la musique. On a construit la chanson de la même façon qu'un DJ le ferait pour un set pour faire danser. C'est un vrai mélange des deux cultures, celle des musiciens et celle des DJ.
Un an après que New Order ait changé la face de la pop européenne avec Blue Monday, ce sont les trois Britanniques de Bronski Beat qui débarquent avec une autre chanson générationnelle, Small Town Boy. Portée par le falsetto de son chanteur Jimmy Somerville, la chanson expose la difficulté pour un jeune gay à vivre dans une petite ville britannique dans les années 80, au milieu de l'incompréhension familiale et de l'homophobie quotidienne. Pour dire cela, Bronski Beat ne pose pas sa mélodie sur n'importe quelle musique. Le groupe s'inspire de la house et de la high energy, l'échappatoire revendicatrice des gays américains.
We'll be right back.
la fin de la décennie 80, la house et ses ramifications sont aux portes du très grand public. Et l'un des artisans de ce passage est Shep Pettibone. Souvenez-vous, le DJ de Kiss FM qu'écoutait religieusement New Order à New York. Pettibone était aussi producteur et remixeur, notamment pour le label américain Sal Soul, maison très active dans les années post-disco. Pas une surprise, donc, qu'il soit appelé par quelques stars de la fin de la décennie à la recherche d'un nouveau vernis sonore. Les Pet Shop Boys, tout d'abord, pour leur album Actually, de 87, puis Madonna, qui veut continuer sur la lancée de son tube Express Yourself de 89, déjà ancré dans un son très club. Avec Shep Pettibone, Madonna enregistre alors une nouvelle chanson comme un exercice de style, un morceau taillé pour des danseurs croisés au club Sound Factory de New York, où ils ont mis au point une danse ultra codifiée aux poses maniérées, inspirée des starlettes en couverture des magazines de mode, le voguing. La chanson s'appellera donc Vogue, elle apparaît en guise de bonus sur la bande originale du film Dick Tracy en 90. Avec son beat house et sa ligne de basse taillée pour les clubs, elle acte la bascule de la pop grand public vers la musique de danse électronique. Des années 80 et 90, dans la foulée de Madonna, on ne compte plus les musiques qui doivent quelque chose à la house music. En Grande-Bretagne, les clubs ont succombé à partir de 88 et quelques groupes de rock s'intéressent à cette nouvelle rythmique dans la foulée de New Order, Primus Cream, les Happy Mondays ou les Stone Roses. Mais c'est finalement à un sous-genre avant-gardiste, né lui aussi à Chicago, que la Grande-Bretagne et toute l'Europe vont se livrer corps et âme l'acid house. We'll be right back. L'Acid House, représenté ici par son morceau fondateur Acid Tracks, signé Future, est une musique qui tape fort. Un son qui évacue tous les artifices, les habillages de cordes et les voix suaves pour ne conserver qu'un beat très appuyé, par-dessus lequel vient tournoyer comme un insecte strident une machine que la firme japonaise Roland avait pourtant enterrée à la fin des années 80, la TB-303. À l'origine, la 303 devait servir de générateur de basse programmable pour accompagner les répétitions des guitaristes, mais elle n'a jamais trouvé son public. Trop instable, trop compliquée à utiliser, livrée dans un premier temps avec un manuel en japonais, elle a disparu des magasins en 84, après deux années d'existence sans gloire. De nombreuses 303 se sont donc retrouvées dans les dépôts-ventes, vouées à l'oubli, jusqu'à ce qu'un trio de Chicago, Future, ne décide de s'en servir sur ses productions en utilisant la machine à sa façon. Générer une boucle de basse, la laisser tourner, puis la transformer en direct et en rythme à l'aide des boutons d'effet de la machine, ce qui a pour effet de créer un son comme acide, jamais entendu. Future obtient ainsi, un peu par hasard, l'une des sonorités les plus caractéristiques des musiques électroniques de la fin du XXe siècle. Lors de fêtes improvisées dans les friches industrielles du nord de l'Angleterre ou dans le club Hacienda, ouvert à Manchester par New Order, propulsé par une importante consommation d'ecstasy, la drogue sans laquelle les Anglais n'auraient jamais dansé, l'Acid House déclenche les années rave. Des années pendant lesquelles la musique a retrouvé la liberté des débuts du disco à New York ou du rock psychédélique à San Francisco. Loin de tout modèle économique, porté par des disques autoproduits par des musiciens sans visage, l'Acid House fut l'un des derniers grands mouvements spontanés de la jeunesse européenne. Puis les politiques et les médias s'y sont intéressés, la police a commencé à poursuivre les fêtards, des lois anti-rêves ont été promulguées et des sound-systems ont été confisqués. Certains sont donc partis vivre leur musique sur d'autres routes et s'aimer la culture extrême et planante de l'acid ailleurs, en France notamment. Les rêves sont devenus des free parties, mais la culture était la même et la réaction des autorités également.
À l'aide de sécateurs, ils ont découpé les grillages pour installer leur matériel. Tout a été bien préparé. Une importante sono diffuse plein pot de la musique techno. Dans la nuit, le ministère de l'Intérieur donne son aval pour faire évacuer les locaux. Les motifs, occupation illégale, tapage nocturne, et on peut soupçonner, comme il est de coutume dans ces lieux, un échange de stupéfiants. Et vers 4h, le ton monte. Sur les méthodes musclées de l'intervention, Jean-Christophe, un jeune douaisien.
On peut pas discuter, c'est tout quoi. Et je regrette, ce soir il y a des visages de rage et des visages enragés quoi. Il y avait des gens qui tapaient, c'est pas normal de voir des trucs comme ça. Là on avait un endroit bien, on peut faire ce qu'on veut. La musique, il y a les sculpteurs, il y a les infographistes, il y a n'importe qui quoi. Tout le monde vient travailler ici quoi. Il y a rien à payer.
C'est pas un endroit légal quand même, vous avez pas d'autorisation.
Eux ils ont le droit de taper comme ça, c'est légal. Et nous on a pas le droit de venir alors qu'il y a rien. Ça fait quoi? Ça fait des années que c'est à l'abandon quoi, ça sert à rien du tout ça, c'est fini.
Dans cet entrepôt désaffecté, les fouilles se sont poursuivies toute la matinée, tout était encore noir ce matin et les policiers n'avaient retrouvé que quelques grammes d'herbe et 2-3 couteaux.
Malgré le couperet policier, la transe tournoyante de la TB-303 a eu le temps de s'infiltrer un peu partout dans la musique. Chez Massive Attack, dans l'album Protection en 94, chez Fightboy Slim, dans son album de 97 Everybody Needs a 303, et chez Madonna, toujours à l'affût dans son tube Ray of Light de 98. Et chez Prodigy aussi, bien sûr, un groupe du sud de l'Angleterre dont les trois premiers albums sont en même temps un aboutissement et un point de non-retour pour la génération rave. Puissants, basiques, peuplés par tous les codes des raves, du breakbeat et de la drum and bass, ils sont un échantillon présentable d'une musique qui n'a jamais voulu être écoutée ailleurs que dans un hangar humide, un vendredi soir, dans une banlieue britannique quelconque. We'll be right back. En France, au milieu des années 90, alors que les free parties agitent les campagnes, d'autres musiciens prennent le contre-pied de la scène acide. Ils ne la rejettent pas frontalement, mais ils veulent jouer une musique électronique davantage taillée pour les clubs que pour les champs de boue. Renouer avec une house plus profonde et romantique, celle de Chicago, mais fantasmée depuis Paris. C'était une scène diffuse, qu'on a nommée French Touch, mais qui, lorsqu'on s'y plonge aujourd'hui avec le recul, était bien plus disparate que les quelques noms devenus stars le laissent penser. Des années où l'on entendait notamment l'électro-techno de DJ Cam et de Laurent Garnier, lauréat d'une première victoire de la musique électronique bien tardive en 98. Dans les années 90, on écoutait aussi le magnifique album Pan Soul de Motorbass, le duo formé par Étienne de Crécy et Philippe Sdar, futur Cassius. On dansait aussi sur les aimables Contine House de Dimitri From Paris et Saint-Germain, mais surtout, on n'en finissait pas de s'emballer pour le minimalisme dansant déployé à partir du milieu de la décennie par Daft Punk. Deux Parisiens qui ont entrepris de rassembler dans leur musique leur fascination pour le disco populaire et ambitieux de Chic, la house romantique, la techno et l'acid house. Tout cela se consume dès leur premier succès de 97, Daft Punk. 30 années de musique qui s'entrechoquent pour ne laisser qu'une empreinte dans la musique de Daft Punk, dont les deux premiers albums offrent une vision filtrée et robotique de ces années 90 qui inaugure une intense relecture de l'histoire des musiques de club. Alors qu'Internet commence à pénétrer dans les foyers, que la révolution du MP3 et de la libre circulation de la musique s'annonce déjà, les hymnes de Daft Punk sonnaient comme une prémonition. Bientôt, toute la musique du siècle et toutes les machines qui l'ont rendue possible serait mise à la disposition de tous. Demain, dans Continent Musique, le dernier épisode de notre histoire des musiques électroniques, comment des gamins de Détroit ont inventé un nouveau funk électronique, la techno. Vous venez d'entendre Continent Musique, le temps des machines, une émission de Sofian Fanen, quatrième épisode, le long ruban de musique. Cette émission a été réalisée par Benjamin Hu, prise de son Alex Dang. Merci à Gérard Chan à la discothèque de Radio France, à Arnaud Plançon et Véronique de Saint-Pastou à l'INA. Toutes les références des œuvres diffusées aujourd'hui sont disponibles sur le site de France Culture, ainsi que quelques conseils de lecture et documents vidéo. Merci à Maitran pour la mise en ligne de tout cela. Vous pouvez podcaster cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours.